Alors, je connais une église qui est propriétaire de superbes locaux dans un quartier huppé de Lyon. Et le dimanche, ils sont plusieurs centaines à se réunir pour le culte. Leur budget annuel tourne autour des 200 000 euros et ils sont capables de rémunérer plusieurs personnes à temps plein. Je connais une autre église qui n'a pas de locaux. Ils sont à peine une trentaine de personnes à se réunir pour le culte, parfois moins. Ils se réunissent dimanche après-midi dans une salle qui se trouve au sous-sol d'une église catholique. Et ils ont un budget 10 fois inférieur à celui de la première église. Ils dépendent d'ailleurs de soutiens financiers extérieurs pour pouvoir avoir un pasteur. Alors d'après vous, laquelle de ces deux églises est en situation de glorifier Dieu le plus ? Laquelle de ces deux églises est en situation de glorifier Dieu le plus ? La deuxième, en fait. Pourquoi ? Parce que si je simplifie, bien sûr, si je caricature, en fait, la première de ces églises a moins besoin de Dieu pour faire de grandes choses. Alors, bien sûr, hein, je l'ai dit, c'est une caricature, mais le but de cette caricature, c'est de vous faire comprendre la leçon du texte qu'on est sur le point de lire et d'étudier ensemble. C'est un passage un peu particulier, vous allez le voir, alors essayons de nous souvenir du contexte. Rappelez-vous, si vous étiez là pour les prédications précédentes, rappelez-vous que Moïse et Aaron ont été envoyés par Dieu auprès du Pharaon pour lui dire, de la part de Dieu, de laisser partir les Israélites qui sont esclaves en Égypte. Mais au lieu de laisser partir les Israélites, qu'est-ce qu'il a fait le Pharaon ? Il a durci l'oppression du peuple hébreu. Et du coup, les Israélites, qui au début avaient beaucoup d'espoir, qu'ils avaient placé beaucoup d'espoir en Moïse, du coup, les Israélites ont perdu toute confiance en Moïse, et même en Dieu. Bien que Dieu ait confirmé par des promesses solennelles son intention de libérer le peuple. Tout ça, on l'a vu dans les chapitres 5 et le début du chapitre 6. Et on a vu qu'en racontant tout ça, ben Moïse, qui est l'auteur de ces textes, est en train de faire monter la tension et le suspense de façon à nous préparer au récit absolument spectaculaire qui va suivre, qui est le récit, le fameux récit des 10 plaies d'Égypte et bien sûr de la libération proprement dite du peuple d'Israël. Et ça, ce récit, on est sur le point de le lire à partir du chapitre 7. Mais juste avant de passer aux choses sérieuses, si j'ose dire, Moïse ajoute une sorte de parenthèse. Et c'est cette parenthèse qu'on va lire ensemble. Une parenthèse où il va officiellement présenter Moïse et Aaron à ses lecteurs. Il va faire un peu leur fiche d'état civil pour les présenter de façon officielle aux lecteurs. Et l'essentiel de cette présentation consiste en des informations généalogiques. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que cette parenthèse de Moïse est structurée selon un effet de style bien particulier qu'on trouve dans la littérature hébraïque et qu'on appelle un chiasme. Ou une structure en chandelier. Alors je vous ai mis dans le bulletin un petit schéma. Comme ça vous voyez ce que ça veut dire, une structure en chiasme ou en chandelier en bas de la page à l'intérieur des bulletins. C'est un procédé littéraire assez courant dans cette littérature hébraïque qui consiste à créer, vous le voyez, une symétrie textuelle dont le but est d'attirer l'attention sur ce qui est au centre du motif, au centre du chandelier si vous voulez, d'accord ? Et je mentionne ce point, qui peut paraître un peu technique, je mentionne ce point pour que vous compreniez que cette parenthèse de Moïse n'a rien d'anodin. Elle sert un but précis. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'au moment d'aborder le récit de cette confrontation prodigieuse entre la puissance de l'Éternel d'une part et la puissance du Pharaon d'autre part, ce récit qu'on va découvrir à partir du chapitre suivant, eh bien Moïse cherche à souligner et à confirmer une idée qu'il a déjà soulevée d'ailleurs, qui est celle de sa propre faiblesse à lui, Moïse. Sa faiblesse à lui. Moïse va mettre sa propre faiblesse en avant, et s'il le fait, c'est parce qu'il sait, et parce qu'il veut nous faire comprendre, que sa faiblesse sert la gloire de Dieu. La faiblesse de Moïse sert la gloire de Dieu. Et telle est la leçon qu'on va retenir aujourd'hui. Dieu est glorifié dans la faiblesse de ses enfants. Dieu est glorifié dans la faiblesse de ses enfants. Vous êtes prêts ? On va lire le texte. On est dans le livre de l'Exode, chapitre 6, et on lit les versets 10 à 30. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Va, parle au Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse partir les Israélites hors de son pays. » Moïse répondit en présence de l'Éternel, « Alors que les Israélites ne m'ont pas écouté, comment le Pharaon m'écouterait-il, moi qui ai des lèvres malhabiles ?» L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et leur donna des ordres au sujet des Israélites et du Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir les Israélites du pays d'Égypte. Voici les chefs de leur famille, fils de Ruben, premier-né d'Israël, Hénoc, Palou, Hetzron et Carmi. Voilà les clans de Ruben. Fils de Siméon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin et Tsoar, et Saül, fils de la Cananéenne. Voilà les clans de Siméon. Voici les noms des fils de Lévi, et avec leur lignée, Gershon, Kehat et Merari. La durée de la vie de Lévi fut de 137 ans. Fils de Gershon, Libni et Shimei, et leur clan. Fils de Kehat, Amram, Yitzhar, Hébron et Uziel. La durée de la vie de Kehat fut de 133 ans. Fils de Merari, Mali et Mushi. Voilà les clans de Lévi avec leur lignée. Amram prit pour femme Yokebed, sa tante. Elle lui donna pour fils Aaron et Moïse. La durée de la vie d'Amram fut de 137 ans. Fils de Yitzhar, Coré, Népheg et Zikri. Fils d'Uziel, Michaël, Elsaphan et Sitri. Aaron prit pour femme Elisheba, fille d'Aminadab, sœur de Nachon. Elle lui donna pour fils Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Fils de Coré, Assir, Elkana et Abiasaph. Voilà les clans des Coréites. Éléazar, fils d'Aaron, prit pour femme une des filles de Poutiel. Elle lui donna pour fils Phinéas. Voilà les chefs de famille des Lévites avec leurs clans. Ce sont là cet Aaron et ce Moïse à qui l'Éternel dit « Faites sortir du pays d'Égypte les Israélites en troupes armées ». Ce sont eux, Moïse et Aaron, qui s'adressèrent au Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir d'Égypte les Israélites. Lorsque l'Éternel parla à Moïse dans le pays d'Égypte, l'Éternel dit à Moïse, « Je suis l'Éternel, répète au Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je te dis. » Et Moïse répondit en présence de l'Éternel, « Me voici, avec des lèvres malhabiles, comment le Pharaon m'écouterait-il ?» Avant d'aller plus loin, on va prier. Seigneur notre Dieu, ta parole tout entière est inspirée par toi et utile pour notre édification. Alors Seigneur, veuille sanctifier maintenant ta parole et sanctifier notre cœur pour que nous soyons disposés à l'entendre et à la recevoir et applique ta parole à notre vie. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Dieu est glorifié dans la faiblesse de ses enfants. Dieu est glorifié dans la faiblesse de ses enfants. C'est une idée un peu bizarre, hein. Alors regardons ce texte. L'élément qu'on trouve au début et à la fin du chiasme. Donc on va prendre le chandelier, si vous voulez, par les branches extérieures. On va se rapprocher petit à petit du milieu. L'élément qu'on trouve au début et à la fin, c'est le suivant. Dieu ordonne à Moïse d'aller au Pharaon, parler au Pharaon. Mais Moïse répond à cet ordre par une objection. Seigneur, j'ai des lèvres malhabiles. Littéralement, en hébreu, c'est « j'ai des lèvres incirconcises ». Autrement dit, « je n'y arriverai jamais, Seigneur. Je suis incompétent, inapte. Seigneur, regarde la façon dont le Pharaon a réagi la première fois. Il a endurci l'oppression des Israélites. Regarde le résultat ensuite que ça a donné pour les Israélites. Ils n'ont plus voulu me faire confiance et ils ne veulent plus te faire confiance à toi non plus. » Tout ce passage, voyez-vous, cette parenthèse que Moïse ouvre et referme avant de passer à la suite, est encadré par cette affirmation de Moïse. « Seigneur, je suis un incapable. » Moïse est en train de souligner sa propre inaptitude à faire le travail que Dieu lui a confié. Il ne faut pas oublier, mes amis, je l'ai dit déjà, que Moïse est l'auteur de ce texte. C'est Moïse lui-même qui rapporte ce récit. C'est donc, on peut le dire, un genre d'autobiographie de Moïse, hein, on est d'accord? Et par conséquent, c'est un peu bizarre de voir l'auteur de cette autobiographie mettre en avant sa propre faiblesse, ses propres défauts, vous voyez, ses propres lacunes. C'est un peu bizarre, non? Imaginez que François Hollande, il y a quelques semaines, dans le cadre de sa campagne électorale, imaginez qu'il ait sorti un livre où il parle de ses relations avec François Mitterrand. D'accord ? Avant, bien sûr, la mort de François Mitterrand. Et imaginez que dans ce livre que François Hollande écrit, eh ben, il révèle tous les mauvais conseils qu'il a prodigués à François Mitterrand. Et que François Mitterrand, heureusement, n'a pas suivi. Imaginez que François Hollande, il révèle dans ce livre aussi que François Mitterrand ne pouvait pas le supporter. Et qu'en fait, François Mitterrand et lui, ils avaient des idées très contraires et qui se fâchaient souvent. Imaginez aussi qu'on apprend dans ce livre que François Mitterrand considérait que François Hollande était vraiment un incompétent, un mauvais leader, incapable de diriger un parti, d'avoir de bonnes idées, de faire de la politique et encore moins de diriger un pays. Imaginez que François Hollande écrive tout cela dans un livre qui paraît quelques semaines avant l'élection. Ce serait bizarre, hein ? Ça serait pour le moins bizarre, d'accord ? Quand on cherche à promouvoir sa cause, on ne souligne normalement pas ses propres faiblesses dans son autobiographie. Mais Moïse, lui, c'est ce qu'il fait. Et la raison est toute simple. Contrairement à un candidat à une élection, Moïse ne cherche pas à rallier le peuple à sa propre personne. Il cherche à rallier le peuple à une autre personne, à savoir la personne de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous voyez donc que Moïse est en train de souligner sa propre inaptitude. Moïse est en train de nous dire, quoi qu'il arrive à partir du prochain chapitre, je n'y suis pour rien. Je vous garantis que je n'y suis pour rien, je n'ai aucun mérite là-dedans. C'est ça que Moïse est en train de nous faire comprendre, hein, avant de passer à la suite, chapitre 7. Mais regardons la suite de ce texte, du texte qu'on a lu. Le deuxième élément du chiasme, hein, on est en train de se rapprocher du centre, c'est Dieu qui adresse une vocation, cette fois non pas à Moïse tout seul, mais à Moïse et à Aaron. Aaron est introduit là dans le chandelier, si j'ose dire, non pas sur les branches extérieures, mais sur les deuxièmes à partir de l'extérieur. C'est très frappant de voir que le personnage d'Aaron est introduit dans ce passage en réponse, en quelque sorte, à l'objection de Moïse. Cette réalité, en fait, correspond exactement à quelque chose qu'on a déjà vu quand on a étudié le chapitre 4. Moïse, là aussi, avait répondu, lorsque Dieu l'a appelé pour la première fois, il avait répondu à Dieu par des objections, 5 en tout. La dernière des objections, c'était la plus catégorique, c'était « Seigneur, je pense que tu m'as pas bien compris, il va falloir que tu envoies quelqu'un d'autre. En fait, je ne veux pas faire le travail que tu me demandes de faire, Seigneur. » Et là, le texte ajoute juste après que la colère de l'Éternel s'est enflammée contre Moïse, et dans la foulée, Dieu fournit à Aaron, son frère, comme un coéquipier qui va l'assister dans sa tâche. Ce qu'on avait vu lorsqu'on a étudié ce texte, c'est que malgré les objections de Moïse, malgré même l'incrédulité de Moïse, Dieu persiste dans son projet. Il persiste et il est capable de mobiliser tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de son plan. Ok, il faut quelqu'un pour t'aider, ok, on va prendre ton frère Aaron, voilà. Le voilà, il arrive d'ailleurs, tiens, voilà. Dieu est capable de mobiliser tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa volonté. Il persiste dans son plan, dans ses intentions. Donc, Aaron est introduit comme un moyen que Dieu pourvoit pour compenser la faiblesse de Moïse. Mais en fait, ça, c'est pas très flatteur pour Aaron. Et Moïse et Aaron ensemble, en fait, c'est encore moins impressionnant que Moïse tout seul. Je m'explique. Imaginez que vous vous promeniez dans le vieux Lyon et vous traversiez une ruelle étroite et sombre et humide et que vous croisiez un loubard, un bonhomme très louche, dans cette ruelle sombre du vieux Lyon. Dans quel cas auriez-vous le plus peur ? Si le loubard s'approchait de vous en boitant, ou si le loubard s'approchait de vous en marchant avec des béquilles ? Dans quel cas vous auriez le plus peur ? Moi, j'aurais moins peur si le loubard s'approchait de moi en marchant avec des béquilles. Vous voyez ce que je veux dire ? Et de la même façon, dans le texte, même si le personnage d'Aaron va revêtir au fil de l'histoire une importance croissante, hein, puisque de toute façon il va devenir le premier grand prêtre d'Israël. Et pour l'instant, Aaron est présenté comme une béquille pour Moïse. Moïse, il ne peut pas faire le travail tout seul, on va lui donner un coup de main, un coup de pouce. Ben, c'est Aaron, le coup de pouce. C'est la paire de béquilles de Moïse. Alors imaginez Moïse du haut de ses 80 ans, il a 80 ans à ce moment-là de l'histoire, imaginez Moïse qui arrive devant le Pharaon et qui lui dit « Alors comme ça, tu refuses de faire partir les Israélites, de laisser partir les Israélites. Comme ça, je ne t'impressionne pas. Moi, du haut de mes 80 ans, je ne t'impressionne pas, d'accord. Laisse-moi te présenter mon assistant. Aaron, tu peux rentrer s'il te plaît ?» Et là, le Pharaon, il s'attend à quoi? Je ne sais pas, peut-être un champion de 4 mètres de haut, armé jusqu'aux dents? Non. Qui c'est qui rentre? Un deuxième vieillard, plus âgé que Moïse, puisque c'est son grand frère, il a 83 ans, et qui vient se mettre à côté de lui. Plus impressionnant ou moins impressionnant? En fait, le fait que Dieu fournisse Aaron comme une aide pour Moïse, ça manifeste un peu plus la faiblesse de ces deux hommes et leur dépendance de Dieu, hein? Et en même temps, ça révèle la détermination de Dieu à bel et bien réaliser son plan. Il n'y a aucun doute à ce moment-là du récit, hein, la tension a tellement augmenté et Moïse a tellement insisté sur les promesses de Dieu que Dieu, il ne fait aucun doute que Dieu va faire quelque chose. C'est sûr, c'est imminent. Et on va le découvrir avec le chapitre suivant. Dieu persiste dans son projet. Donc Moïse a souligné sa propre inaptitude, premier point, et deuxièmement, il souligne le contraste entre sa propre faiblesse et la détermination de Dieu. Il parle de sa dépendance de Dieu en montrant que Dieu fournit Aaron comme une aide. Vous voyez ce qui est en train de se passer ici? Moïse est en train d'utiliser sa propre faiblesse pour mettre Dieu en valeur. Moïse est en train d'utiliser sa propre faiblesse pour mettre Dieu en valeur. Il est en train de s'effacer complètement. Je suis un incapable. Mes lèvres sont malhabiles. J'ai besoin d'une aide. J'ai besoin de mon grand frère. Et Dieu fournit ce qu'il faut. Tu restes déterminé à réaliser son plan. Mais regardons la suite. On est en train de s'approcher du centre du chandelier, hein. Mais avant d'y parvenir, on découvre des éléments généalogiques. Et cette généalogie est centrée sur les deux frères que sont Aaron et Moïse. Ça, c'est le verset 20 et on va y venir dans un petit moment. Mais de part et d'autre du verset 20, on a, avant le verset 20, eh bien, les générations qui précèdent Aaron et Moïse, les générations jusqu'à Aaron et Moïse, et puis après le verset 20, on a les générations depuis Aaron et Moïse, les générations qui vont suivre Aaron et Moïse, vous voyez? Alors, je vous rassure, on ne va pas rentrer dans tout le détail de cette généalogie, je vais pas vous expliquer le sens étymologique de chaque prénom. On pourrait le faire, mais je ne pense pas que ça vous intéresserait. Mais je voudrais relever simplement deux choses principales. Premièrement, Moïse nous fait bien comprendre que lui-même ainsi qu'Aaron sont issus de la lignée de Lévi. Lévi qui est le troisième fils de Jacob. Vous vous souvenez que Jacob, dont le nom a été changé à Israël, a eu 12 fils. Et ces 12 fils sont les 12 patriarches qui ont donné leur nom aux 12 tribus d'Israël. Lévi, c'est le troisième de ses fils. Et c'est important pour Moïse de montrer qu'il est de la lignée de Lévi. Pourquoi? Parce que c'est la famille de Lévi qui plus tard dans l'histoire va devenir la famille qui est tout entière consacrée au service du temple. D'accord? Donc il nous fait bien comprendre qu'ils sont issus de la lignée de Lévi. Il nous donne d'ailleurs la durée de vie de quelques personnes seulement, et les quelques personnes seulement dont il nous donne la durée de leur vie, ce sont leurs ancêtres directs, entre Lévi et eux. Alors ce sont probablement les ancêtres principaux, il est probable que Moïse saute quelques générations, mais il nous fait comprendre qu'ils sont issus de cette famille-là, la famille de Lévi. Et du coup, Moïse et Aaron se rattachent aussi à certains héros emblématiques de l'histoire future d'Israël que sont notamment Éléazar, qui est mentionné dans la deuxième partie de la généalogie, Éléazar et aussi Phinéas. Ces deux bonhommes, ce seront dans l'histoire d'Israël des grands prêtres et qui vont accomplir des choses assez formidables pour le Seigneur. Et ils sont mentionnés ici par anticipation. Il y a donc, c'est la première chose que je veux relever, hein, il y a donc dans cette généalogie des éléments de noblesse et de vertu. Et en même temps, et ça c'est la deuxième chose que je veux relever, cette généalogie attire aussi notre attention sur des choses moins glorieuses et moins vertueuses, et pourtant présentes dans la famille de Moïse et d'Aaron. D'abord, verset 15, la présence d'une cananéenne dans la famille sainte, mais ça c'est bizarre. Les cananéens, c'est des méchants, c'est des païens, ils sont impurs. Alors ça pulvérise sur place le mythe de la pureté ethnique d'Israël. Il y a bien du sang cananéen dans la famille même. Enfin là, c'est pas le lignage direct de Moïse, mais dans la famille sainte. Mais surtout, ce qui est mentionné et qui devrait attirer notre attention, c'est la mention du personnage qui s'appelle Coré, le cousin de Moïse et d'Aaron. Il est fait mention de Coré, de ses fils et de ses clans. Et pour rappel, peut-être que certains d'entre vous vous en souvenez, mais Coré, dans l'histoire d'Israël, c'est un sinistre personnage. C'est quelqu'un qui est devenu tristement célèbre pour avoir mené une révolte contre Moïse et contre Dieu dans le désert. Et le texte nous rapporte que son châtiment a été très sévère. En fait, Dieu a ouvert la terre sous lui, sous sa maison, sous la maison de toute sa famille. Ils ont été engloutis vivants dans le séjour des morts. C'est ce que dit le texte. Vous trouvez ça dans le livre des Nombres, chapitre 16. Alors Moïse nous fait bien comprendre que la famille sainte, et notamment la famille de Lévi, eh bien, ça mélange des éléments de noblesse d'une part et de vertu, mais d'autre part aussi de vilenie, de vice, de péché, d'impureté. Moïse nous dresse le tableau d'une famille éminemment sainte, mais en même temps qui est en proie à de terribles vicissitudes, de terribles difficultés. D'accord ? Elle est sainte, cette famille, mais elle n'est pas si sainte que ça en même temps. Vous voyez encore une fois le réalisme et la franchise de Moïse. Combien d'entre nous, bonjour, bienvenue, je vous invite à prendre place, hein, sans problème. Combien d'entre nous, si on nous demandait de présenter notre famille, combien d'entre nous ferions spontanément mention de ce proche cousin, voyez, qui sous l'occupation a collaboré avec les nazis et a dénoncé de nombreux juifs et de nombreux résistants? Tiens, présente-moi ta famille. Bah écoute, j'ai un cousin, et ben il était collabo, il a dénoncé des juifs et des résistants. Combien d'entre nous ferions spontanément mention de cela? Moïse, il le fait. Oui, j'ai un cousin, il s'appelle Coré. Vous vous souvenez, Coré, oui. Oui, celui qui a été englouti vivant dans le séjour des morts, avec toute sa famille. Je ne sais pas si nous, on aurait cette même honnêteté spontanée, sauf si nous cherchions volontairement à révéler l'opprobre qui a été jeté sur notre famille. Sauf si c'est notre intention délibérée. Oui, je vais te dire exactement, en fait. Ma famille, par certains égards, c'est assez honteux. C'est le discours de Moïse ici. Il a souligné sa propre faiblesse, et maintenant Moïse souligne la faiblesse et les terribles imperfections de sa propre famille. Le peuple saint de Dieu ne porte pas bien son nom. Vous voyez ? C'est ça qu'il est en train de nous faire comprendre. Mais le pire reste encore à venir. Regardons le dernier point rapidement. Et ce dernier point, c'est le centre du chiasme. C'est le centre du chandelier, d'accord ? C'est la bougie au milieu, là. Et rappelez-vous que ce type de structure, ce type d'effet de style littéraire dans cette littérature a pour but d'attirer notre attention sur le centre. Qu'est-ce qu'on trouve au centre ? Une énorme casserole, comme on dit aujourd'hui. Une énorme casserole. Pourquoi ? Il est question de la naissance d'Aaron et de Moïse, évidemment, puisque c'est eux qu'on est en train de présenter dans ce texte. Mais le texte dit sans sourciller qu'ils sont tous les deux nés d'une union incestueuse. Le papa d'Aaron et de Moïse a fait un bébé à sa tante. Deux bébés même. C'est à la fois grave. Et en même temps, c'est pas si grave. Pourquoi ? C'est grave d'une part parce que la loi de Dieu qui sera donnée quelque temps plus tard interdit expressément ce genre d'union. Lévitique 18, Lévitique 20 par exemple. Et en même temps, c'est pas si grave parce que cette loi de Dieu, eh bien précisément, elle sera donnée plus tard. Donc, il ne s'agit pas à proprement parler d'une désobéissance à la loi, puisque cette loi n'existe pas encore, n'a pas été révélée du moins encore. Donc ce n'est pas une désobéissance en connaissance de cause à la loi. Et en même temps, il faut bien sûr se souvenir que quand Moïse écrit cette généalogie, lorsqu'il lègue son autobiographie au peuple, ben là, ils l'ont, la loi. Donc il sait très bien l'effet que ça va faire, il sait très bien que ça va faire l'effet d'une bombe. Amram, et c'est au centre du chandelier, hein, Amram prit pour femme Jochébed, sa tante, et elle lui donna pour fils Aaron et Moïse. C'est terriblement embarrassant pour Moïse et Aaron, hein. On est d'accord ? Et finalement, ça confirme tout le sens de ce passage, hein, c'est que Moïse et Aaron ne sont pas du tout présentés comme des héros. Ils ne sont pas du tout présentés comme des héros. Ils sont présentés comme des anti-héros. Ils sont tout le contraire de ce qu'on attendrait d'un héros dans ce type de littérature. Moïse et Aaron, vous voyez, ce ne sont pas des espèces de demi-dieux investis de pouvoirs extraordinaires à l'image de tous les héros de la mythologie antique. Pas du tout. Ils sont complètement l'inverse. Ce sont deux frères de plus de 80 ans, faibles, hésitants, incrédules, craintifs, issus d'un peuple esclave et d'une famille, disons, compliquée. Qui c'est alors le véritable héros de cette histoire ? C'est l'Éternel, bien sûr. C'est là toute la leçon que Moïse veut que nous comprenions avant d'aborder le chapitre suivant, avant de passer à cette confrontation spectaculaire entre Pharaon et l'Éternel. Le héros, c'est l'Éternel. Et non seulement Moïse veut que nous le comprenions avant de lire la suite, mais il veut que nous le comprenions avant même que nous envisagions de lire et d'étudier tout le reste de l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament. Le héros, c'est l'Éternel. De simples hommes ne peuvent rien faire pour le peuple par eux-mêmes. De simples hommes ne peuvent rien faire pour le peuple par eux-mêmes, ni les prophètes, ni les prêtres, ni les rois. Toute cette multitude de conducteurs que le peuple d'Israël a eu dans son histoire, tous, sans exception, étaient faibles et pécheurs, à commencer par Moïse. Ce qu'il nous faut, voyez-vous, c'est bien plus que des moyens seulement humains. Ce qu'il nous faut, c'est Dieu. Ce qu'il nous faut, c'est l'Éternel. Ce qu'il nous faut, c'est l'ultime prophète, prêtre et roi, qu'est le Christ, le Messie, qu'est Jésus, le Fils éternel de Dieu, qu'est Jésus, le Dieu fait homme, l'Éternel qui s'est incarné pour venir au secours de son peuple une fois pour toutes. C'est de lui dont nous avons besoin. Pas de Moïse, pas d'Aaron, pas du roi David, pas des prophètes. D'une certaine façon, voyez-vous, on peut dire que la faiblesse de Moïse sert la gloire de Christ. La faiblesse de Moïse sert la gloire de Christ parce que Moïse est en train de s'humilier dans ce texte pour que l'œuvre de Dieu apparaisse dans toute sa beauté et sa force. Moïse et Aaron sont des anti-héros, mais Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, est le héros, le véritable héros de l'histoire. Et voici comment cette leçon s'applique à nous aujourd'hui, c'est que notre faiblesse aussi aujourd'hui, elle sert la gloire de Christ. Spirituellement, notre faiblesse dans la Bible est décrite en termes d'esclavage et de mort. Voilà notre condition. D'après la Bible, nous sommes esclaves. Pire, nous sommes morts dans nos péchés. Nous ne pouvons rien faire pour nous sauver nous-mêmes. Il n'y a rien vers quoi se tourner pour trouver le salut. Ni l'argent, ni l'amour, ni la politique, ni un président, ni les médicaments, ni les rites religieux, ni la violence, ni la drogue, ni l'occultisme, ni la célébrité. Tous ces moyens et bien d'autres encore sont voués à l'échec. Mais Dieu est venu en personne pour nous secourir. Voilà ce dont nous avions besoin. Nous avions besoin de Dieu. Jésus est mort et ressuscité pour payer à notre place la rançon de notre délivrance. Ce qu'il a fait pour nous, vous voyez, ce que Jésus a fait pour nous est d'autant plus impressionnant, d'autant plus merveilleux que nous, de notre côté, nous étions absolument sans force, faibles, morts spirituellement dans nos péchés. Notre faiblesse, c'est sa gloire. Si on pouvait faire la moindre partie du chemin par nous-mêmes, mes amis, eh bien ça diminuerait d'autant le mérite et la gloire de Jésus-Christ. Pas vrai? Attends, cette petite partie, c'est moi qui l'ai faite. Non, aucune partie du chemin, n'était à notre portée. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ce n'est pas dans la Bible, mes amis, d'accord? Ce n'est pas dans la Bible. Dieu est bien plutôt glorifié dans notre faiblesse et dans notre incapacité à nous aider nous-mêmes. Alors, pour conclure, je voudrais récapituler rapidement et ensuite, brièvement, élargir ce principe. On a pu voir à travers ce texte qu'au moment d'aborder le récit des 10 plaies d'Égypte, le récit de cette confrontation prodigieuse entre la puissance de Pharaon et la puissance de l'Éternel, eh bien Moïse cherche à souligner et à confirmer sa propre faiblesse à lui. C'est vrai que Moïse va avoir un rôle important dans les événements qui vont suivre, mais il ne veut pas du tout en tirer le moindre mérite ou la moindre gloire. Moïse met sa propre faiblesse en avant, et s'il le fait, c'est parce qu'il sait que sa faiblesse sert la gloire de Dieu. Et il veut nous faire comprendre que Dieu est glorifié dans la faiblesse de ses enfants. Alors en introduction, je vous posais la question de savoir quelle église, n'est-ce pas, sur les deux que j'ai cités, quelle église est en situation de glorifier Dieu le plus? Celle qui a les moyens à vue humaine, ou celle qui, à vue humaine, n'a pas les moyens? Et vous avez bien compris que je voulais vous faire comprendre que... Vous avez compris que je voulais vous faire comprendre, ouais. Drôle de tournure, ouais. Faut que je change ça. Vous avez bien compris que lorsque nous n'avons pas les moyens à vue humaine, notre besoin de Dieu pour faire de grandes choses est plus grand. C'est presque mathématique. Lorsque nous n'avons pas les moyens à vue humaine, alors grandit notre besoin de Dieu pour faire de grandes choses. Ainsi, lorsque Dieu se met à agir, il ne peut faire aucun doute que le mérite de ce qu'il fait lui revient intégralement. C'est comme ça que Dieu est glorifié dans notre faiblesse, mes amis. C'est aussi pour ça que Paul dit, je cite, que Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Il dit aussi dans un autre passage que la puissance du Seigneur s'accomplit dans la faiblesse. Et par conséquent, dit-il, je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Alors puissions-nous dire aussi la même chose aujourd'hui, non seulement en tant que chrétiens dans notre marche personnelle avec le Seigneur, mais encore en tant qu'Église, certes toute petite, imparfaite, limitée, mais qui dépend néanmoins d'un Dieu tout-puissant qui a l'intention de se glorifier à travers nous. Voici le témoignage d'un croyant qui montre comment Dieu parfois choisit d'être glorifié dans la faiblesse de ses enfants et de son Église. C'est un témoignage véridique, hein. L'histoire se déroule en Angleterre au XIXe siècle. Voici ce que nous raconte ce croyant. Il m'arrive quelquefois de penser que j'aurais pu rester dans l'obscurité et le désespoir jusqu'à aujourd'hui, si Dieu, dans sa bonté, n'avait envoyé une tempête de neige un certain dimanche matin, tandis que je me rendais à un certain lieu de culte. Je bifurquais dans une petite rue obscure et entrais dans une petite église méthodiste. Il y avait dans cette chapelle peut-être 12 ou 15 personnes. J'avais entendu parler de ces méthodistes primitifs, qui chantaient si fort qu'ils vous donnaient mal à la tête. Cela n'avait pas d'importance pour moi. Je voulais seulement savoir comment je pouvais être sauvé. Le prédicateur ne put venir ce matin-là, bloqué par la neige, je suppose. Finalement, un homme d'une grande maigreur, un cordonnier ou un tailleur, ou quelque chose de cette sorte, monta en chair pour prêcher. Il faut bien sûr que les prédicateurs soient instruits, mais cet homme, lui, était vraiment primaire. Il ne pouvait pas sortir de son texte pour la simple raison qu'il n'avait pratiquement rien d'autre à dire. Le texte disait « Regardez à moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. » Ésaïe 45, verset 22. Il ne prononçait même pas les mots correctement. Mais cela n'avait pas d'importance. Il me semblait qu'il y avait dans ce texte une lueur d'espoir pour moi. J'ai la suite du récit à votre disposition si vous voulez connaître la suite, mais c'est ainsi que fut converti Charles Spurgeon, un des plus grands prédicateurs de ces deux derniers siècles, dans une petite chapelle où se réunissaient 12 ou 15 personnes et où prêchait un pauvre Moïse aux lèvres malhabiles. Gloire à Dieu, n'est-ce pas? Pas gloire à Spurgeon, pas même gloire au prédicateur. Nous pouvons donc, comme Paul, nous glorifier de nos faiblesses et nous glorifier de notre dépendance de Dieu, parce que nos faiblesses servent sa gloire. Amen.